question palestinienne sans avoir posé d'une manière claire les responsabilités des uns et des autres. Nous venons de le faire en ce qui concerne l'histoire dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que les responsabilités dans cette affaire continuent à s'imposer tout au long, tant que les vivants sont vivants, ils réclament, ils demandent, ils exigent de savoir où va-t-on et pourquoi les démocraties européennes, encore une fois, je suis désolé pour les Européens qui sont ici, pourquoi les démocraties européennes ne se mêlent pas de la question palestinienne. Comme si, encore une fois, les démocraties européennes n'ont strictement rien à voir avec la Palestine. Or, nous venons de montrer que si ce n'est pas vrai, il y a une nécessité morale que les Européens doivent gérer. C'est vrai, maintenant le temps est passé, 65 ans est passé sur cette affaire-là, mais y compris d'ailleurs du point de vue de droit international, ce n'est pas terminé. Droit international ne ferme jamais ce genre de dossier. Mais je reviendrai là-dessus. Nous avons beaucoup souffert, nous, là je parle de nous, vous et moi, tous ceux qui se sont intéressés à la question palestinienne, en France et ailleurs, dans les autres pays européens, nous avons beaucoup souffert de pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. D'expliquer, d'ailleurs, dans les années 70-80, on ne pouvait même pas dire ce genre de choses. C'était extrêmement mal vu. Beaucoup de personnes, dont des Palestiniens, dont moi personnellement, ont été menacés d'expulsion pendant les années 70-80, parce que ils parlaient de la question palestinienne, et ont projeté des films sur la Palestine, etc., etc. Ce temps-là est terminé, certes, néanmoins, nous avons un problème qui est fondamental. C'est celui de savoir, nous avons compris et nous savons que nous ne pouvons pas avancer sur cette question que si l'opinion publique européenne arrive à bien porter la question palestinienne. Vous en faites partie de cette opinion publique. Aujourd'hui, voilà, nous sommes à Strasbourg, on a une belle salle, on fait des conférences, on fait plein de choses sur la Palestine, chaque année en tout cas au moins, et ailleurs aussi. Et néanmoins, il reste que nous n'arrivons pas encore à gagner l'opinion publique, bien que l'opinion publique a énormément progressé sur la question palestinienne. D'ailleurs, c'est un miracle. C'est un miracle parce que nous ne sommes pas aussi organisés que l'on peut le penser, parce que nous sommes des associations qui ne sont pas forcément très riches, parce que nous n'avons pas nous n'avons pas l'équivalent des CRIF et compagnie, etc., etc. Nous, on faisait, les uns et les autres, on faisait là où on est, ce qu'on pouvait. Malgré tout, on a pu, à travers les 30 années qui viennent de se passer, de gagner une bonne partie de l'opinion publique. Mais malheureusement, on n'a pas gagné l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la classe politique. Et la classe politique européenne, si je prends par exemple l'Assemblée nationale, on a deux personnes, probablement, peut-être un troisième, mais qui ne se déclare pas, qui disent qu'ils soutiennent la question palestinienne. C'est tout. Sur le combien 650 quelques députés de la République française. Donc, et comme nous sommes dans une démocratie, ce sont ces gens-là qui sont censés faire bouger les choses, comme par exemple la reconnaissance de la Nakba. J'aimerais comprendre pourquoi il était pendant des années interdit aux professeurs d'école de parler de la Nakba. Et que nous n'avions pas pu, parce que nous n'avions pas les moyens, parce qu'aucun député français n'a levé la voix pour dire « Comment ça? Pourquoi on ne parle pas de la Nakba? C'est de l'histoire. Comment peut-on tricher avec nos propres enfants pour faire plaisir aux CRIF? Comment est-ce possible dans une démocratie comme la France ?» On a triché, on a menti. On a menti sur l'histoire, on a privé nos enfants de lire l'histoire de la Palestine pour tout simplement ne pas fâcher le monstre sur lequel je vais revenir évidemment tout au long de notre sympathique rencontre.
Pour prendre un pays, quel qu'il soit, n'importe où, il a fallu justifier quelque part, et une des justifications, c'est que nous n'avons pas affaire à des hommes à part entière. Nous avons à des 10 000 hommes. Affaire à des 10 000. Et donc, c'est justifié de les mettre en esclavage. Nous allons les améliorer, peut-être. On va même les rendre de vrais hommes. Et le monde, croyez l'avoir noté, a joué Hamlet, traduit en arabe, sur une scène de théâtre à Jérusalem. En 1933, qui a été joué par une femme. Alors, on pourrait continuer un plus à trouver des exemples ici et là sur ce peuple vivant qui était le peuple et qui est toujours d'ailleurs le peuple palestinien. Je reviens maintenant un peu sur l'Europe. Et sur le fait que la Palestine est abandonnée. La Palestine est seule. La Palestine est seule depuis 1948. C'est pas nouveau. Mais on aurait pu imaginer, on aurait pu croire qu'avec le temps, les choses allaient changer. Ça se trouve que pas tant que ça. Et que nous sommes encore aujourd'hui, et la Palestine est encore aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Et que Israël fait ce qu'il veut en Palestine. Il fait ce qu'il veut en Palestine, elle détruit ce qu'elle veut en Palestine, elle confisque ce qu'elle veut en Palestine, que ce soit de l'olivier qui a 1000 ans jusqu'au aux maisons des gens pauvres qui ont à peine une maison dans laquelle s'abriter, elle peut être détruite sans aucun revenu, personne n'y intervient d'ailleurs. Elle peut mettre en prison n'importe qui en Palestine. Israël est un pays qui fonctionne par des lois, par décret. Ils font une loi aujourd'hui qui peut interdire Nabil El Agar de parler sur Israël. Si Nabil El Agar était en Palestine, et ben, il est mort. On peut le condamner à tout ce qu'on veut, puisque la loi qui vient d'être instituée, qui dit ceci ou cela. D'ailleurs, il y a des lois en Palestine qui portent le nom des gens pour lesquels et à cause de quelles la loi a été faite. Par exemple, il y a une loi qui s'appelle la loi Bichara, un intellectuel palestinien très connu, qui a d'ailleurs quitté la Palestine, a été obligé de quitter la Palestine parce qu'il a été, on a fait une loi à la Knesset d'Israël, qu'on a appelé la loi Béchara, dont l'objet était de dire que Béchara a des relations avec des pays ennemis. Et à ce titre, il doit être traduit devant les tribunaux israéliens. Alors, ça se trouve, il y avait la chance que ce monsieur il n'était pas en Palestine à ce moment-là, il était quelque part au Moyen-Orient, il a compris qu'il ne pouvait plus jamais revenir en Palestine s'il voulait continuer à vivre sa vie. Et ça s'appelle la loi Bichara. Vous imaginez, en France, la loi, je ne sais pas quoi, qui, parce qu'un tel doit être traité comme ceci et pas comme ça. Et donc, Israël est un État extrêmement riche aussi, bien entendu, vous le savez, un État technologique très, très important dans le monde. Et là, il a tous ses amis, tous ses soutiens, de la France jusqu'à les États-Unis d'Amérique, passant par l'ensemble des pays européens et au-delà de l'Europe. Israël est capable de bombarder les Palestiniens encore aujourd'hui devant le monde entier et qu'il y ait des centaines, voire des milliers de morts. Ce qui s'était passé en 2008 à Gaza, par exemple, et nous avons vu tous en direct à la télévision. On voyait les avions militaires israéliens qui venaient, qui bombardaient, qui envoyaient le phosphore sur les gens. Et on voyait les gens en train d'exploser à la télé, en direct. C'était pas du cinéma, c'était du vrai. On voyait des bras, des têtes, des machins par terre. Mais le « on », ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas vous, moi, c'est tout le monde. C'est le monde entier a vu ça. Et pendant ce temps-là, les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis à Paris. Non, à Paris. Chez Kouchner. Et ils sont sortis avec le fait qu'ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Et Kouchner a fait un petit discours à la presse pour dire qu'une partie de ministres européens considéraient que Israël se défend, et l'autre partie a dit que les autres ministres considèrent qu'ils n'ont rien à dire. Voilà où on en était en 2008 dans un massacre qui se déroulait devant le monde entier et dont les pays, les nôtres,
nos pays à nous, le pays européen, était là et qui n'ont strictement rien fait. Sans vouloir revenir en arrière, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre de côté comme ça parce que ça fait 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que je me suis proposé aujourd'hui de m'intéresser essentiellement sur la question de la responsabilité. Et c'est que tout ce que j'essaye de dire aujourd'hui, je pense le faire d'une manière responsable. Et j'exige de mon gouvernement d'être responsable. Et je ne peux pas accepter que le ministre concerné ne fasse rien. Alors qu'il y a des centaines et des centaines de personnes en train de se faire charcuter par les avions israéliens, que ce soit à Gaza ou que ce soit en France ou que ce soit n'importe où ailleurs, on ne peut pas l'accepter. Je ne demande pas que des avions français aillent défendre les Gazaouis, mais j'exige à ce que la République française disent un nom, un mot, pour dire que ceci n'est pas acceptable. Ils ne l'ont pas fait. Jamais. Ce n'est pas acceptable. C'est lamentable. Et là, la responsabilité, elle est morte. On est en train de nous dire tout ce que vous voulez, les amis citoyens français ou européens, c'est d'accord. Mais quand il s'agit de la Palestine, c'est autre chose. Mais qu'on nous le dise. Qu'on le sache. Peut-être que c'est comme ça que le monde doit tourner. Mais au moins, nous, en tant que citoyens, nous avons le droit de le savoir. Que la France et la France que nous connaissons, mais lorsqu'il s'agit d'Israël, pas de la Palestine. La France n'a rien contre la Palestine, hein, soyez sûrs. Absolument rien. D'ailleurs, il a tellement rien à voir avec la Palestine qu'il l'oublie. Mais, en revanche, là où il est extrêmement intéressé, c'est ses rapports avec Israël. C'est Israël qui intéresse la France, ce n'est pas la Palestine. Ça se trouve que les avions qui bombardent les Palestiniens sont des avions des avions israéliens. Donc la France, amie d'Israël, a quelque chose à nous dire. Nous, qui ne pouvons rien, à part regarder et voir les enfants palestiniens en train de se faire déchiqueter de partout. Donc, c'est une question encore de responsabilité. Je parlerai d'ailleurs de rien d'autre que de responsabilité aujourd'hui. Et d'ailleurs, à propos de la responsabilité, en 2008, parce que c'est un exemple que je trouve très, très parlant, monsieur le président de la République a décidé d'envoyer Germinal, pièce de guerre fondamentale de l'armée française, à Gaza. Personne n'a rien compris. D'ailleurs, très peu, on n'en a pratiquement pas parlé. Sarkozy a envoyé l'une parmi les plus importantes pièces de guerre de l'armée française à Gaza, Germinal. Germinal a tourné ses canons vers Gaza. Vous, peuple de France, savez-vous que la France a déclaré la guerre à la Palestine? en 1928. Parce que dans le protocole militaire, quand vous tournez vos canons vers l'autre, c'est que vous déclarez la guerre à l'autre. Et d'ailleurs, avant même de déclarer la guerre, pourquoi la France envoie Germinal devant Gaza pour assister l'armée israélienne, l'armée qui vient de massacrer, je ne sais plus combien, 1600 ou 1600 Palestiniens, hommes, femmes, enfants, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? C'est qui le responsable de ça là ? Qui a le droit de faire un truc pareil dans un pays démocratique ? Où nous sommes des citoyens, où nous votons, machin, truc, etc. Démocratie, je ne sais pas quoi. Peut-être. Alors, donc ça c'est une. Et puis il y a cette, toujours dans ce même esprit, on se rend compte à quel point nous sommes dans une. Enfin, la Palestine est mise dans un coin, là-bas, je sais pas. Et à chaque fois, nous subissons le deux poids, deux mesures. Pourquoi, dans une grande démocratie, on peut se porter et accepter naturellement le deux poids, deux mesures ? Évidemment, on l'accepte seulement parce qu'il s'agit d'Israël. Vous vous souvenez de ce fameux soldat français qui est allé faire la guerre aux Palestiniens, qui s'appelle Chalit? Vous vous en souvenez, ce garçon? Un garçon français, franco-israélien, à la limite, j'en ai rien, ciré, moi. Il décide d'aller faire la guerre contre les Palestiniens. Il est allé faire la guerre contre les Palestiniens. Mais c'était son choix. Il n'était pas allé défendre la France. La France n'était pas en guerre contre les Palestiniens. C'est un peu plus tard que Sarkozy a piqué son truc contre les Palestiniens. Mais Chalit, il est allé faire la guerre. Bon, il s'est fait prendre par des Palestiniens, par des groupes palestiniens d'ailleurs. Parce que les Palestiniens, il n'y a pas d'État palestinien. Donc par des groupes de Palestiniens. Bien. Et ce franco-israélien qui fait la guerre donc avec Israël contre les Palestiniens se fait devient un être principal de la majeure partie des institutions françaises. D'abord, sa famille est reçue 5 fois chez Sarkozy. Deuxièmement, le Delanoë, maire de Paris, réunit le conseil municipal de Paris et il fait voter l'ensemble du conseil municipal à la majorité que Chalit devient citoyen d'honneur de la ville de Paris. Vous vous rendez compte ? Citoyen d'honneur de la ville de Paris. Vous pouvez servir la France pendant 30 ans, vous serez jamais citoyen d'honneur de la ville de Paris. Et pourquoi Chalit deviendrait citoyen d'honneur de la ville de Paris ? Est-ce qu'elle était en train de faire la guerre pour la France ? Est-ce qu'il y avait une guerre où ce garçon est allé défendre la France? Non. Il n'y avait pas de guerre. C'est lui qui a décidé de... Et en même temps, il y avait le fameux Palestinien, Salah Hamouri. Salah Hamouri, il était, lui, condamné à 7 ans de prison parce qu'il aurait pensé qu'un tel rabbin mériterait la mort. Il aurait pensé. Ça veut dire que nous sommes dans le fameux livre 84. Voilà, on connaît les pensées des gens maintenant. Et ce garçon, il aurait pensé qu'un tel rabbin mérite la mort. Il est arrêté et condamné à 7 ans de prison. Et Sarkozy ne reçoit jamais la mère de ce garçon. Ça, c'est le deux poids, deux mesures. Et le deux poids, deux mesures, pour revenir à mon histoire de responsabilité, c'est inacceptable. C'est inacceptable, nous sommes dans une république. C'est inacceptable. C'est pour ça que je pense que nous, opinion publique, nous devons mettre essentiellement tout notre poids sur cette question de responsabilité. Nous ne voulons pas ni faire la guerre à ceci ou à cela. Nous pensons que la France a un ensemble de responsabilités à accomplir vis-à-vis du peuple palestinien. Que la France soit amie d'Israël, ça le regarde. Démocratiquement, la France a voté. On ne vote pas ce genre de choses. Il y a un gouvernement. Le gouvernement français se considère ami, très proche d'Israël. Ça a le droit. On n'a qu'à changer le gouvernement si on n'est pas content. Si on n'était pas content. Mais tant que la question est plutôt celui d'avoir la responsabilité vis-à-vis des Palestiniens en tant que peuple dont la France, que la France avait participé à son histoire et a forgé le malheur dans lequel il se trouve aujourd'hui, parce que la France en est responsable, parce que la France a accepté que la Palestine soit voulée par les sionistes, parce que la France, comme l'Angleterre et comme l'Amérique un peu plus tard, ont accepté que le Palestinien meure dans cette affaire, alors que la responsabilité de ce qui s'est passé, encore une fois, je le répète, de juifs européens, est une responsabilité européenne et non pas, n'a rien à voir avec les Palestiniens.